Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Donc, livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons lire 3 ou 4 versets, hein, ça va pas être très long. Alors, il est question de Pierre, l'apôtre, qui après son reniement va revenir vers Jésus, et il va annoncer ce message à tous ceux qui sont autour de lui, et un message qui parcourt le monde encore aujourd'hui. Donc, Actes chapitre 2, verset 16. « Mais vous assistez à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prédit. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront des paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les plus humbles parmi mes serviteurs et mes servantes, et ils parleront en mon nom. Je ferai apparaître des miracles là-haut dans le ciel et des signes extraordinaires ici-bas sur la terre, toujours au même chapitre. Verset 37. Ses auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur, et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau, en don, ou le don de l'Esprit Saint, car Dieu vous l'a promis, à vous, à vos enfants, à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. » Jusqu'à aujourd'hui, dans le temps et dans l'espace, et pour les hommes de notre génération. Nous sommes dans une communauté, je le rappelle, que l'on appelle charismatique, c'est-à-dire que cette expérience de la première Pentecôte, il y a 2000 ans, dans la chambre haute à Jérusalem, eh bien c'est quelque chose qui est aussi présent dans nos églises, dans notre cœur et dans notre foi. Et pour une grande partie d'entre nous, eh bien, nous avons fait cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est une vieille histoire, figurez-vous, parce que j'aimerais aborder un sujet. On pourra peut-être le poursuivre sous d'autres aspects ou en tous les cas le prolonger. C'est-à-dire que je voudrais simplement, eh bien, mettre en évidence ce matin et rappeler le principe de la vie de l'Esprit, à commencer par les œuvres admirables que Dieu fait par son Esprit. Hier, maintenant, et certainement que les choses ne sont pas révolues, il y a encore certainement, non pas à voir et simplement par curiosité, mais tout simplement pour que nous soyons ses serviteurs, et qu'à travers la vie de l'Esprit, nous ayons cette crédibilité du témoignage pour que autour de nous, eh bien, les gens puissent dire, voici ces hommes et ces femmes, ils ont bouleversé le monde. C'est pas nous, mais c'est l'Esprit qui est en nous, comme du temps de la première Pentecôte. On doit se caractériser en tant qu'église charismatique, où le plus grand nombre d'entre nous, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, avec la manifestation, le signe initial ou le signe évident du parler en langue, et nous verrons peut-être plus tard hein, tous les aspects, mais une chose qui est certaine, c'est que notre privilège d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être une église charismatique, doit nous amener à bien comprendre que notre témoignage est un témoignage d'équilibre, crédible, non pas des gens éthérés qui, voilà, sont entre ciel et terre, qui, quelque part, sont pris par toutes sortes de manifestations estatiques. Non, nous avons les pieds sur terre. Je tiens quand même à le dire, parce que on a vu tout et n'importe quoi. Mais il faut rester sur les textes de la Bible. Alors, ce matin, je voudrais faire un petit peu, eh bien, ce que l'on appelle en théologie, ça n'a rien à voir avec les services de l'hôpital, la pneumatologie et pas la pneumologie. Ok? Vous voyez la différence? Parce que là, je suis pas venu avec l'oxygène hein, ce matin. Hein. Mais par contre, on est venu avec le souffle de l'Esprit du ciel. Ça, c'est autre chose. Alors, j'aimerais justement vous parler des œuvres admirables, merveilleuses, de l'Esprit de Dieu à travers la Bible. Alors, si on doit finalement aller au bout de notre démarche, dimanche prochain, on est encore là. Hein. Voilà. Mais toujours est-il que on va signaler certaines choses. Dans le livre de la Genèse, figurez-vous que dans le premier chapitre et dans le verset 2, il nous est simplement dit « La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu. Il est question de Dieu et il est question de son Esprit avec un E majuscule. Dans l'Ancien Testament, nous constatons que le Saint-Esprit est à l'œuvre au moment de la création. Le verset 2, on est compte, hein? Il n'y a pas grand-chose d'écrit jusqu'ici. Hein? On n'aurait qu'une Bible avec deux versets. Ben, on sait que le Saint-Esprit existe, que le Saint-Esprit est créateur. Et il est en tant que personne de la Trinité divine. Le Père créateur. Le Fils rédempteur, celui qui est venu accomplir le salut, et le Saint-Esprit, le réalisateur de la création et également de la rédemption. 1, 2, 3, être tripartite, un seul. On peut dire les choses comme ça. Et nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui agit en l'homme, nouvellement créé en tant que créé d'une manière matérielle. Vous relirez ça dans votre Bible. Il agit dans l'homme qui vient de sortir de la poussière, en quelque sorte, et c'est le Saint-Esprit qui va lui communiquer la vie, un souffle, tout simplement, de vie, en faisant de l'homme, matière, sortie de la poussière, une créature unique, et il nous est bien dit à la ressemblance et à l'image de son Créateur. Il nous est parlé que, on pourrait dire, cette masse d'argile sans vie, va découvrir, et ça c'est le miracle de Dieu qui nous dépasse naturellement, mais il va y avoir à ce moment-là un souffle de vie, c'est le souffle de l'Esprit. Jésus en parlera dans la nouvelle naissance pour une autre dimension, et qui a rendu l'homme vivant. Nous ne sommes pas des statues inanimées, mais nous sommes des êtres vivants, de la même dimension que Dieu est Père, Fils, Esprit, que l'homme est matière, âme, et également esprit, mais avec un petit E, là. On est d'accord. Le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, va conférer une capacité particulière à certains personnages pour qu'ils accomplissent des actions particulières, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Ça n'a rien changé depuis l'histoire des temps enfouie dans, finalement, eh bien, la mémoire des hommes, puisque l'on peut en... Mais la Bible est là pour nous le rappeler. Eh bien, c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous donne la capacité, et nous voyons que l'Esprit agissait, dans les temps jadis, surnaturellement, pour permettre, ou pour permettre à travers eux et en eux de ces individus, de servir efficacement Dieu. Dieu a envoyé son Esprit à l'aurore de l'Église, ce qu'on appelle la Pentecôte, après la repentance. Après la conversion à Jésus-Christ, après la nouvelle naissance, il a envoyé son esprit, ce que l'on appelle très couramment chez nous, le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue. Ce qui est important, c'est pas le parler en langue, c'est d'être rempli de l'Esprit. Qui, rempli de l'Esprit, nous amène à parler en langue. On le verra peut-être un peu plus tard. Hein. Et on s'aperçoit que l'équipement que nous avons, nous, en tant que chrétien, c'est que Dieu nous a envoyé, eh bien, sa puissance. Il nous a donné la puissance. C'est une personne, le Saint-Esprit, une personne puissante. Vous relirez dans Actes chapitre 1er, vous avez tous les éléments de ce que je suis en train de vous rappeler ce matin. Je prends un exemple. Dans la construction du tabernacle, vous en souvenez, l'Esprit de Dieu a rendu deux hommes, l'un s'appelait Betsael et l'autre Oliab, capables de fabriquer des différents ouvrages d'art et d'enseigner d'autres ouvriers en leur conférant finalement eh bien une autorité. C'est ce qui nous est dit dans le livre des Hommes, chapitre 11. Il nous est dit que l'Esprit de Dieu est venu sur ces deux hommes, que j'ai cités, dont j'ai cité le nom, avec des capacités extraordinaires. C'était des choses matérielles, c'était des artisans, ou voire des artistes. Mais ils ont trouvé, dans cette capacité, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu et Dieu a soufflé sur eux, eh bien, ils ont été capables de faire des choses inouïes, inattendues, voire même reproduire certains objets qui sont des réalités célestes pour les mettre à la portée des hommes de la terre. C'était quelque chose, ils travaillaient l'or, l'argent, les diamants, etc., etc. Et le plus grand des artistes aujourd'hui serait certainement pas à comparer avec finalement ces hommes parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. De même, lorsque Moïse a délégué son autorité aux 70 anciens, on se souvient, c'est dans Nombre chapitre également, livre des Nombres, il nous est dit que l'Esprit reposa sur eux. Que l'Esprit est venu, il a reposé sur Moïse, et il a reposé sur ces hommes qui devaient être les compagnons d'œuvre. Je pense par exemple à Hur et Aaron, par exemple, hein, pour ceux qui connaissent bien leur vie. Et ces hommes ont prophétisé. Il nous est dit, le rappel qui nous est donné, et le prophète Joël a dit que dans les derniers temps, eh bien, il y aurait, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles, je répondrai sur les vieillards, ils auront des visions, ils auront des songes, etc., etc. Et toute, finalement, inspiration prophétique, c'est pas l'homme, mais c'est l'esprit qui nous fait parler. Ça fait partie des dons qui ne vont pas faire partie de notre, je n'en toucherai pas ce matin, parce que c'est encore un autre domaine. Il en est de même comme pour Josué, par exemple, ou encore Joseph, chez qui l'Esprit de Dieu résidait. On connaît la vie de Joseph. On connaît la vie de Josué également. Mais il y avait un revêtement de l'Esprit de Dieu. Il y avait ces hommes qui étaient des hommes comme les autres, avec naturellement leur capacité, leur dextérité, leur compétence, leur force, etc., etc. Mais il y avait quelque chose de plus. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même le rappeler, dans l'Église d'aujourd'hui, autant les chrétiens que nous sommes les uns et les autres, autant les frères anciens, autant les pasteurs, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Autrement, il ne se fera rien. Il y aura une Église, mais une Église qui n'aura pas la vie, une Église qui n'aura pas de souffle, une Église qui n'aura pas de vision. Et faute de vision, eh bien, le peuple se perd. C'est ce que nous dit aussi un autre texte. Nous voyons que le Saint-Esprit, Dieu, à communiquer à des hommes des capacités physiques surnaturelles. Souvenez-vous de Samson. Samson qui était un juge en Israël. Un homme qui avait vraiment reçu beaucoup de choses de Dieu. Et nous voyons que Samson va se retrouver à un moment donné avec une force extraordinaire. Et on verra la différence le jour où Samson va tomber. Il va chuter. Et que là, à ce moment-là, l'esprit va se retirer. Et il se retira à cause de sa désobéissance. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous soyons les uns et les autres des Samson, à la différence de sa désobéissance à Samson. Il y a également une chose à dire, c'est que quand Christ, à l'ascension, est retourné vers son Père, l'Esprit-Saint va communiquer un ministère ou va remplir un ministère auprès des hommes. C'est donc ce dont nous bénéficions aujourd'hui. Depuis 2000 ans, il les a eu qu'il y avait 120 des disciples qui étaient dans la chambre haute. Ils priaient parce que Jésus leur avait fait la promesse qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit et qu'à ce moment-là, eh bien, ils vont avoir finalement une assurance, une certitude. Vous savez, ce Pierre dont on a parlé il y a quelques instants, qui par peur, par crainte des hommes, a renié Jésus. Quand il va revenir après sa repentance vers Jésus, ça va être un homme rempli du Saint-Esprit. et qui va se tenir devant des foules et qui va apporter finalement, eh bien, ce message que nous avons lu en partie ce matin. Et ce qui nous donne la capacité, ce qui vous donne la capacité d'enthousiasme, de chanter, de rendre témoignage, de prier, prier par l'esprit, prier par l'intelligence, ce qui me donne moi aussi la capacité de pouvoir vous parler, d'enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui est en moi. Autrement, c'est pas possible. Moi, je ne saurais pas le faire. Bien sûr, avec le temps, les années, on apprend. Naturellement, on a une maîtrise de la connaissance de la parole de Dieu. Mais c'est pas suffisant. Il y a là, naturellement, eh bien, un accomplissement dans un ministère qui est donné, mais avec l'équipement nécessaire, c'est-à-dire la vie de l'Esprit en nous. Et nous voyons que ce Saint-Esprit qui est donné aux hommes à la Pentecôte, eh bien, va se poursuivre, ou tout simplement va poursuivre l'œuvre de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Le Seigneur avait dit à ses disciples, « Il m'est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas sur vous. » Et nous pouvons aujourd'hui, et lorsque nous trouvons ces paroles dans l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus dira même à ses disciples, lorsque vous serez remplis du Saint-Esprit, lorsque vous serez baptisés du Saint-Esprit, lorsque la Pentecôte sera venue, eh bien, vous ferez des miracles encore plus grands que moi, je n'en ai fait. Faire des miracles plus grands que Jésus, c'est quand même assez étonnant. Mais aujourd'hui encore, là où l'évangile est apporté, bon, à travers des missions, à travers l'évangélisation, dans notre pays et ailleurs, surtout ailleurs, parce que les cœurs sont beaucoup plus favorables à entendre ce message et à le croire, eh bien, je peux vous dire que, sur certaines terres de mission, il y a encore les miracles que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Il n'y a rien à changer. Guérison divine miraculeuse. À travers toutes sortes de choses, comme cela est décrit dans l'évangile de Marc à la fin, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ. Et ça, il faut un revêtement, il faut un équipement. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ou ceux qui ont un peu perdu la note du Saint-Esprit, le Seigneur ce matin, c'est pas pour rien, mais vous rappelle qu'il est toujours là et il est prêt à vous renouveler. Nous l'avons chanté tout à l'heure, le fleuve de Dieu. Eh bien, c'est ça, le torrent de Dieu. C'est un souffle de renouvellement et combien on se sent bien, combien nous sommes édifiés et combien à ce moment-là, nous ne comptons plus sur nous-mêmes, mais nous comptons sur le Seigneur. Comme Jean-Baptiste dira, il faut que je diminue, mais que lui, il croisse en moi, et il me donnera ce qu'il faut. Il n'y a ni orgueil à ce moment-là, il n'y a ni vanité, il n'y a là ni élévation de l'homme, c'est Jésus qui est glorifié. Ça, c'est important. Et il faut le rappeler. Alors, cette promesse du baptême du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit, a été renouvelée par le Seigneur, donc le jour de l'Ascension, et elle a été vécue par 120 chrétiens, peut dire ça comme ça, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Il nous est dit qu'il y a eu des flammes de feu qui se sont manifestées. Mais il nous est dit particulièrement qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Aujourd'hui, lorsque nous venons dans un culte charismatique comme chez nous, eh bien, nous avons des parler en langue avec leur interprétation, ou nous avons des dons spirituels. Il y a dans ces parler en langue, quelquefois, eh bien, à travers ce vecteur que sont les dons, finalement, d'inspiration, il y a des dons de révélation, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits. Si ce n'est pas d'autres dons qui accompagnent souvent l'évangélisation davantage, le don de foi, le don de guérison et le don du miracle. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Faut pas en douter, hein. Et je le dis parce que demain sera un autre jour. Et il ne faut pas oublier que vous êtes les détenteurs de cette connaissance pour la transmettre dans les années qui vont venir à tous ceux qui viendront nouvellement, à nos enfants, parce que vous l'avez remarqué avec moi, Dieu donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui l'appellent ici, ailleurs, jusque dans les pays les plus lointains, ou en aussi grand nombre que le Seigneur. Eh bien, va les interpeller pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je voudrais dire également que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui présidait à la création du monde, c'est aussi lui qui remplit un rôle dans la conversion des hommes, la conversion des pécheurs, si vous voulez. Et il va les amener à la repentance. La repentance, je l'ai rappelé dernièrement, ce n'est pas un regret. Ce n'est pas un remords, ça n'a rien à voir avec une pénitence. La repentance, c'est véritablement, eh bien, une action de Dieu dans la vie d'un homme qui ne connaît pas Dieu, mais qui va le transformer et le bouleverser à tel point que quand il va regarder sa vie, il va voir, il va prendre conscience qu'il est perdu. Sans Dieu, on est perdu. On a dit, et le monde religieux a fait la différence entre les grands et les petits pécheurs, les grands et les petits péchés. Ça, c'est faux. C'est une histoire, ça. Ça ne tient pas la route, bibliquement parlant. Tous les hommes ont besoin de passer par la repentance. Et qu'est-ce qui nous amène à la repentance? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va agir en nous et qui va nous amener à pleurer sur nos péchés et avec un désir profond et ardent de changer de vie, que Dieu change notre vie, parce qu'on ne pourra pas y arriver tout seul. Alors, il amène les hommes à la repentance. Il les convainc de péché, de justice et de jugement. De péché, parce que Jésus est mort pour nos péchés. De justice, c'est parce que Dieu, Jésus, a donné sa vie, lui, juste pour les injustes. Et de jugement, c'est que le diable a été vaincu et que nous sommes vainqueurs aussi avec Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ du diable. De péché, de justice et de jugement. Il nous convainc, tout simplement, en nous révélant, en révélant aux hommes, eh bien, leur perdition, leur condamnation. Et il va transformer petit à petit le cœur des hommes en le régénérant. À partir du moment où nous sommes repentants, nous sommes convertis à Jésus-Christ, il y a là ce que l'on peut appeler une nouvelle naissance, ce que Jésus a enseigné dans l'évangile de Jean avec Nicodème. Une nouvelle naissance, c'est une régénération, c'est-à-dire ce que j'étais avant, je ne le suis plus maintenant. Non pas parce que je veux, mais parce que le Seigneur, dans sa volonté, va me donner la capacité. Grossier, je ne le suis plus. Menteur, je ne le suis plus. Voleur, je ne le suis plus. Et tout ce que voudrait ajouter de tous les péchés humains. C'est parce que c'est Dieu qui l'a transformé. Et nous sommes étonnés, et quelquefois nous étonnons aussi ceux qui nous ont connus auparavant, en disant, cet homme, cette femme, mais il s'est passé quelque chose dans sa vie. C'est pas possible. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce fait dans le cadre de la nouvelle naissance, naturellement. Il y a d'abord cette régénération immédiate. Vous vous êtes converti à Jésus, vous êtes né de nouveau, vous avez déjà cette régénération immédiate. Ensuite, tout au long de notre vie, si nous vivons 70, 80, 90 ans, ça va être une régénération progressive. Et il y aura la régénération difficile, définitive lorsque nous fermons une fois pour toutes les yeux sur la terre et que nous irons à la rencontre du Seigneur. Trois étapes. Mais c'est pour ça qu'il y a encore des tentations, c'est pour ça qu'il y a encore des faiblesses, c'est pour ça qu'il y a encore des reculades, il y a toutes sortes de choses, parce qu'il y en a un qui a été vaincu, mais qui veut nous faire croire que c'est lui qui est vainqueur sur nous. Et tant que je reste dans la foi en Jésus-Christ, et que je lui dis, et je lui résiste avec une foi ferme, il ne peut rien faire. C'est la marche par la foi, tout simplement. Et puis, à la suite de cette conversion, de cette repentance, de cette régénération, de cette nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui témoigne de la réalité de ce que l'on peut appeler dans la Bible l'adoption. Jésus l'a montré d'une manière admirable quand il a appris aux hommes à prier « Notre Père qui es aux cieux ». Je ne suis plus un homme du monde, mais je suis et je fais partie maintenant. Je suis un citoyen d'un autre monde, tout en restant finalement à l'identique de ce que le monde et la vie est. Dans tous les domaines, mais j'ai été adopté par Dieu. Je suis devenu fils, mesdames, fille de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des enfants de notre Père qui est aux cieux. Et ça, c'est quelque chose, c'est une certitude, vous qui avez peur et craignez. Mais le Seigneur ne va pas vous abandonner, vous êtes son fils et sa fille, et un père n'abandonne pas. Il ne va pas vous délaisser. Et il va mettre tout en œuvre comme un père digne de ce nom, des parents dignes de ce nom, font tout pour que leurs enfants soient heureux. Alors il donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions, que lui puisse développer en nous une vie nouvelle, celle de Jésus-Christ. Ce n'est pas sur la base d'une philosophie religieuse ou d'une théologie religieuse, avec des rites, des traditions, etc. Non, non, c'est tout simplement nous faire à l'image de Christ. Vous avez remarqué que le Saint-Esprit, à la création, nous avons été faits à l'image de Dieu, moralement, naturellement, pas physiquement. Dieu n'a pas de corps. Mais la nouvelle naissance va nous faire rentrer encore beaucoup plus profondément dans la réalisation de cette formation d'un être nouveau. Et nous nous apercevons qu'à ce moment-là, eh bien, il va y avoir une nouvelle vie qui va se développer. Nous sommes à l'école. Nous sommes en permanence dans le développement. Et je pense que les années doivent nous amener à une maturité spirituelle et que les gens doivent voir en nous, à travers les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la patience, la joie, la paix, la bonté, la maîtrise de soi, et puis il y en a d'autres comme ça, eh bien qu'on puisse voir qu'il y a chez nous une œuvre qui s'est faite, et cette œuvre, elle se fait par le Saint-Esprit à travers les fruits, tout simplement, et qui traduit un changement de nos sentiments et de notre mentalité. Paul nous déclare que le fruit de l'Esprit, eh bien, est quelque chose d'important pour les chrétiens qui persévèrent dans la vie spirituelle. Le Saint-Esprit nous enseigne maintenant. Je vous ai parlé des œuvres admirables du Saint-Esprit. Il nous enseigne. Tant que nous sommes chrétiens, disciples, nous sommes donc dans une école. Quand on se convertit, c'est la primaire, la maternelle, la primaire. Puis après, tout au long de notre vie, il va y avoir d'autres exercices, d'autres découvertes, une maturation, une maturité spirituelle. Et parce que Dieu cherche notre perfectionnement, oui, Dieu est un Dieu de perfection, sans que nous soyons, nous, des perfectionnistes sur le plan charnel, parce qu'il y a des chrétiens qui veulent faire les choses à la place de Dieu. Non, travaillez à votre sanctification, mais c'est Dieu qui nous sanctifie quand même. Parce que là, on tombe mystique, et c'est là où on tombe dans l'ascétisme, on tombe dans toutes sortes de déviations en voulant être plus saint, finalement, que les autres, et que, en voulant quelquefois, excusez-moi, il y a une expression qui le dit, vous me pardonnerez, mais en voulant être saint, on fait le singe. Excusez-moi. Mais c'est vrai. De vouloir être plus spirituel que les autres, mais qu'est-ce que l'on est? On n'est rien. On n'est rien, mais c'est Dieu qui va développer cela, naturellement. Alors il cherche notre perfectionnement, comme Paul le dit par exemple dans Éphésiens, et nous voyons que le Saint-Esprit nous apprend comment nous comporter et quels sont les bons choix pour nous. C'est pratique ça, à travers la prière de la foi. Parce que je me tiens devant Dieu, je suis confronté en tant qu'homme, à quel cas je puisse être arrivé, parvenu, de dire mais voilà, j'ai le choix ceci. Ça peut être des choix sentimentaux, affectifs, ça peut être des choix sociaux, des choix familiaux, des choix de responsabilité, toutes sortes de choses. Eh bien, ce que nous apprenons, c'est que c'est le Saint-Esprit. Et il faut de la patience, parce que le Saint-Esprit va pas forcément nous répondre immédiatement. Un claquement de doigts, et voilà le miracle qui arrive. Ça, c'est faux aussi. Ça peut arriver, mais quelquefois, Dieu nous exerce à la patience hein, et nous apprend à nous comporter, c'est-à-dire que là où je me serais mis en colère, eh bien, je me mets plus en colère. Là où j'aurais sorti mes gants de boxe, eh bien, je bénis. C'est le sermon sur la montagne. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, etc., etc. Vous comprenez l'image, hein? C'est pas en moi-même, parce que moi-même, dans mon tempérament, mon caractère, je fonce, hein. Mais le Seigneur va faire que nous soyons à l'image de Jésus, qui était doux et humble de cœur. Voilà la transformation, l'œuvre du Saint-Esprit, hein. Et il nous enseigne toutes choses. Écoutez, il nous est dit dans Jean, « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Eh oui, un chrétien attentif, un chrétien conséquent, eh bien, doit se souvenir de ça. C'est que Jésus nous dit qu'il nous enseignerait. Et tout au long, n'allons pas penser que nous savons tout, parce que si nous disons que nous savons tout, nous ne savons rien et nous ne connaissons rien. Et il nous rappellera ce que je vous ai dit pour nous tenir en éveil de cette parole que nous pouvons lire tous les jours. Et de cette parole, même si nous l'avons pas en main, c'est le Saint-Esprit qui nous le rappelle dans notre mémoire, parce qu'il est imprégné. Le Saint-Esprit agit en nous également par le biais de la parole de Dieu, et il nous est dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit qui tranche, vous savez? C'est pas une arme de guerre, l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Non. C'est, en quelque sorte, eh bien, comme le vigneron fait à la vigne, quand il émonde, et c'est aussi, eh bien, ce que quelque part, l'œuvre de Dieu qu'il fait à l'intérieur de nous-mêmes pour décoller ce qui est charnel et de ce qui est spirituel, naturellement. Hein. Et cette épée de la parole de Dieu, cette épée de l'Esprit, eh bien, nous donne de pouvoir interpréter parfaitement les Écritures. Il y a des frères et des sœurs qui me disent « Mais je comprends pas ce texte, je comprends pas ceci, cela, etc., etc. » Mais si vous demandez au Seigneur, moi j'ai eu l'habitude à travers la prédication, parce que je suis quand même obligé de la lire. Quand je dis obligation, c'est un plaisir, hein, n'allez pas penser que je suis... Non, mais j'ai besoin, moi, de me tenir devant le Seigneur, et quelquefois, je suis devant certaines... dans l'expectative, en disant, mais qu'est-ce que je vais dire? Et comment je vais le comprendre? Parce que si j'ai intérêt à dire quelque chose, faut que ça soit véritablement dans le contexte, et que ça soit en accord avec la parole de Dieu et l'Esprit qui m'inspire. Comprenez? C'est tout un art. Hein, mais c'est Dieu qui va vous aider. Il y a des textes qui sont difficiles. Alors ne vous butez pas sur un texte qui est difficile. Demandez au Seigneur en disant, Seigneur, aide-moi à le comprendre. Il va peut-être pas vous donner la réponse immédiatement, mais un jour, soit à travers une prédication, soit à travers une prophétie, d'une manière ou d'une autre, Eureka, j'ai compris. On avance comme ça, hein. Ne soyons pas impatients, mais laissons faire le Seigneur. Hein. Voilà, son enseignement sera toujours conforme aux Écritures, hein. Et pas des extrapolations de droite et de gauche, comme font les faux prophètes, ou comme font des faux pasteurs, avec des théories qui tiennent beaucoup plus de la secte que du message de l'Évangile, et qui nous rend compréhensibles la volonté de Dieu. Jésus va dire à ses disciples que l'Esprit Saint leur rappellera tout ce qu'il leur a enseigné et dit. Sa présence, et on le voit dans la vie des apôtres, sera nécessaire pour donner avec exactitude l'enseignement qu'ils avaient reçu de la bouche du Seigneur et vécu par des expériences. Et quand on regarde le miracle, le côté surnaturel de la composition de nos Bibles, de la Bible, Ancien Testament et surtout Nouveau Testament, on se dit c'est quelque chose qui n'est pas forcément et bien d'inspiration humaine, ça vient de beaucoup plus haut. Quand on voit la sagesse, quand on voit les choses qui nous sont apportées, et c'est ce qui fera qu'il y aura et il naîtra un ministère particulier parmi les cinq ministères dont celui de l'apôtre, celui du prophète, celui de l'évangéliste, celui du pasteur, mais particulièrement le docteur. Et le docteur, c'est quelqu'un qui a reçu un don surnaturel de Dieu par le Saint-Esprit, qui est capable d'enseigner les églises, d'enseigner les chrétiens sur des choses très compliquées et de les rendre faciles à comprendre. Un vrai docteur, c'est ça, hein. Et là, quelquefois, on se dit, mais nous, on en a connu un, vous l'avez certainement peut-être pour les anciens, l'avez connu, c'était monsieur Walter Butler. Et je peux vous dire qu'il compliquait pas les choses, mais oh, il prenait des textes quelquefois qui étaient véritablement difficiles à comprendre et il vous les expliquait, mais d'une manière formidable. Il y en a eu d'autres, il y en a encore aujourd'hui. Des gens qui sont capables de décortiquer la parole de Dieu dans toute sa complexité et de vous les apporter, de vous les servir au menu et de dire « mais j'avais pas compris ça comme ça ». Parce qu'il y a une inspiration du Saint-Esprit. Ça, c'est le docteur, ou l'enseignant, on pourrait dire ça comme ça. Jésus nous parle également du Saint-Esprit comme l'Esprit de vérité, j'insiste, qui conduit les disciples dans toute la vérité. Mes frères et sœurs, tant que vous resterez calés, si je peux me dire, attachés, liés à une compréhension de la parole de Dieu inspirée par l'Esprit, vous ne craignez rien. Vous ne craignez pas de vous tromper. Maintenant, quand on veut sortir un peu des sentiers battus pour essayer d'avoir la révélation de quelques mystères qui nous gratouillent et qui nous démangent, alors à ce moment-là, vous prenez des risques. Mais à partir du moment où Jésus nous dit qu'il envoie l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous garde. Parce que je reste, finalement, convaincu que ce que Jésus me dit, par sa parole, confirmé par son esprit dans mon esprit, eh bien, c'est quelque chose qui est vrai. Parce que ça nous révèle l'exactitude des vérités spirituelles et il élève notre connaissance de Dieu par-delà notre intelligence humaine, par-delà notre sagesse humaine, par-delà nos expériences humaines. C'était le cas de l'apôtre Paul. J'ai connu ce mystère dont je vous parle par révélation du Saint-Esprit. Et Paul, c'était pas le dernier des derniers, hein. Au niveau de la révélation, ça c'est sûr. Donc le Saint-Esprit nous conduit afin de mettre notre vie en conformité avec la volonté de Dieu. Ma volonté, sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel elle est parfaite, sur la terre, on ne sait plus tellement où on en est rendu. Surtout quand on est nouveau converti, quelle est la volonté de Dieu? Mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, écoutez, notre vie, lorsque nous prions avec foi et que nous demandons l'aide de Dieu et qu'il nous éclaire par son Saint-Esprit, nous trouverons les bonnes réponses, nous trouverons les bons remèdes et les bonnes solutions. Là encore, il faut de la patience, ce que quelquefois nous ne savons pas faire. Et à ce titre, le Saint-Esprit est un agent actif dans le témoignage de la prédication ou de votre, tout simplement, témoignage. L'apôtre Paul disait que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça ce que nous avons besoin dans notre monde aujourd'hui. C'est que le prédicateur, quel qu'il soit, pasteur, celui qui enseigne, évangéliste, c'est que véritablement, lorsqu'il apporte la parole, elle doit être accompagnée de quelque chose qui bouleverse les vies. C'est pas le don de l'homme. L'homme n'a aucun don. C'est Dieu qui donne des dons, les siens, ceux du Saint-Esprit, à l'homme. Attendez, parce que quelquefois on est parti en live avec ça. Hein. On s'est dit, ah ben voilà, regardez cet homme, un évangéliste, il prie, les malades sont guéris, etc., etc. Mais c'est pas l'homme qui guérit, c'est le Saint-Esprit, qui se sert de l'agent qu'est l'homme. Et ça évite la glorification finalement. Ça évite la glorification et de se prendre la tête et d'avoir des chevilles qui enflent. Et ça, on l'a vu dans nos milieux, on l'a vu dans tous les milieux religieux. Ah, j'ai quelque chose de la part de Dieu. Mais qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu, hein? Et Jésus ira pousser encore la chose, il dira, lorsque vous vous considérez, considérez quand vous avez fait tout ce que vous deviez faire, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. À Dieu soit la gloire, mais pas à l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Paul disait, mais c'est une démonstration de puissance et d'esprit. Ça se voit pas trop, mes frères et sœurs, dans nos églises ici en métropole ou enfin dans nos pays occidentaux. Mais moi, je voudrais vous dire, parce qu'on est bien placé pour le savoir et d'avoir les retours, c'est qu'il se passe des choses, même si vous ne les voyez pas. Il y a eu des baptêmes dimanche dernier. Ben moi, je dis que le plus grand des miracles, c'est quand un jeune homme, une jeune femme, une femme, un homme se tourne vers le Seigneur et qui dit maintenant, je crois en Jésus-Christ, ma vie a été transformée. C'est pas un miracle, ça? Plus grand encore qu'un aveugle qui voit. Plus grand encore qu'un boiteux qui marche. Et ça, c'est extraordinaire. Et quelquefois, nous recevons des histoires et des paroles de connaissance. Moi, la semaine dernière, j'ai entendu des choses assez étonnantes. Des gens qui sont venus me voir, des chrétiens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, il y a eu une confrontation entre là, une personne et une autre, mais en paix, hein, tout simplement. Et cette personne qui ne connaissait rien de la vie de la personne auquel elle s'adressait, elle lui a donné une parole de connaissance. Et la personne qui était concernée disait, c'est pas possible. Comment vous savez ça? Eh ben, moi, je dis que le miracle dans l'église de Saint-Nazaire et de Redon, il existe encore. Non, mais c'est vrai. Je suis pas en train de faire de, hein, je suis pas un camelot, là, en train de vendre, non. Hein. Mais c'est vrai. Alors vous dites, ah ben, il n'y a plus de miracle. Mais non, c'est que vous le savez pas. Et heureusement que vous le savez pas. Et moi, je bénis le Seigneur. Même pour moi, ce qui me concerne quelquefois, eh ben, je dis, Seigneur, si je le sais pas, c'est peut-être pas plus mal que je le sache pas. Parce que finalement, ça se passe dans la vie des gens et devant le Seigneur et dans les lieux célestes. On va avoir des découvertes de l'autre côté. Hein. Continuons à faire les choses dans l'humilité, dans la simplicité, et que toute la gloire en revienne tout simplement à l'Esprit et à Jésus, tout simplement. Le Saint-Esprit est appelé le paraclète. Vous savez ce que ça veut dire, le paraclète? On va l'expliquer. C'est dans l'évangile de Jean. C'est un mot grec. Ce mot vient du mot tout simplement parakletos, dont c'est une connotation juridique qui va au-delà de la traduction que nous avons en français et qui peut être traduit par consolateur, par avocat, par défenseur ou encore soutien ou assistant. Mes frères et sœurs, à partir du moment où vous êtes nés de nouveau, que l'œuvre de régénération s'est faite avec la nouvelle naissance, à partir du moment et plus est, qui plus est, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous ne sommes plus tout seuls. Jésus le dit, on l'a vu la semaine dernière avec les baptêmes, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a pas dit je suis contre vous, je suis avec vous. Et Jésus est notre avocat dans les conflits, dans les déchirements, dans les querelles, dans les disputes. Il est notre avocat. Nous n'avons pas à 100% raison, mais il est notre avocat, il est notre défenseur. Un avocat, c'est ça, hein? C'est prendre la cause d'un coupable pour dire, écoutez, non. Voilà, il faut trouver des circonstances atténuantes et toutes sortes de choses. Il est notre soutien. Quelquefois, nous avons le sentiment dans nos épreuves que nous sommes seuls au monde. Mais non, vous n'êtes pas seul au monde. C'est parce que vous ne le voyez pas. Mais la foi nous donne de voir ce que nous ne voyons pas avec nos yeux naturels. Et Jésus est notre soutien. Jésus est votre soutien. Il est auprès de vous. Il connaît vos larmes et vos pleurs. Il connaît toutes vos défaillances. Mais il est là. Il est notre paraclète. C'est ce qu'il nous est dit. Regardez par exemple un exemple qui est cité. À titre d'avocat, Jésus, notre avocat, notre aide, Jésus a pu dire de ne pas préméditer notre défense dans le cadre d'une comparution devant la justice humaine. Parce qu'il nous est dit cette parole, c'est l'esprit de votre Père qui est en vous, qui parlera pour vous, pour vos défenses. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience quelquefois d'être accusé injustement. Ah, ça nous reste à travers la gorge. Hein. Comment ? C'est pas possible ! Eh bien, quelquefois c'est le silence, vaut mieux pas répondre. Mais quelquefois nous trouvons des paroles, comme l'histoire d'Étienne par exemple, où la remplie du Saint-Esprit, il nous a dit que c'était un homme rempli d'esprit et de foi, Étienne. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, il va dire des mots, il va dire des choses qui vont confondre, mais alors à mettre par terre, tout simplement, eh bien, ses adversaires. Donc, quand ne vous débattez pas vous-même lorsque vous êtes dans une situation conflictuelle et que vous vous sentez écrasé par des accusations parce qu'il y a des gens qui parlent mieux que vous et qui sont véritablement animés de méchanceté pour vous enterrer, eh bien, vous vous en remettez au Seigneur. Et vous verrez qu'à ce moment-là, eh bien, c'est le Seigneur qui va vraiment venir prendre votre défense. Et vous verrez comment il va faire les choses. Ouais. Jésus ne s'est pas défendu. Dans toute sa passion, il nous est dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Parce que quand on ouvre la bouche pour se défendre, on donne des éléments à notre adversaire pour qu'il s'en serve, après pour nous tuer encore deux fois. Hein. Faisons attention à cela. Hein. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, ou pour vous. Le Saint-Esprit nous a été donné pour combler l'absence de Jésus. Vous savez que Jésus est parti, non ? Ouais, vous savez qu'il est parti. Et mais vous savez qu'il revient aussi. Mais en attendant... Pendant 2000 ans de cette ère que l'on appelle l'ère chrétienne, eh bien, le Saint-Esprit nous a été donné pour combler l'absence de Jésus dans les cœurs des premiers disciples jusqu'à nous maintenant. Et le Saint-Esprit nous aide tout simplement par cette magnifique expérience que nous avons lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et que nous parlons en langue. Il intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas ce qu'il convient de donner et de demander dans nos prières, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 et verset 34 ou 36, enfin vous vérifierez. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il nous est dit que Dieu parle par l'Esprit, par des soupirs inexprimables, et Dieu, sans que nous sachions ce que nous disons, mais Dieu connaît ce que nous disons, et ça monte jusqu'au ciel, et ce sont des prières qui seront immanquablement exaucées. Les mots que je ne trouve pas, c'est le Saint-Esprit qui est en moi, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On continue un petit peu? Jusqu'à dimanche prochain? Le Saint-Esprit est celui qui agissait dans les prophètes de l'Ancien Testament. Je reviens un petit peu en arrière. L'apôtre Pierre précise que les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, les grands prophètes que nous avons, dont les noms nous les connaissons, ils n'ont pas parlé selon leurs propres inspirations ou propres volontés, mais il nous est dit qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Inspirés, poussés par le Saint-Esprit, tout simplement. Et il affirme, dans 1 Pierre chapitre 1er, que l'Esprit de Christ habitait dans les prophètes. Ils étaient porteurs d'une révélation qui n'était pas encore réalisée. C'est ce qu'il nous est dit. Ils portaient en eux un message. Quand je pense à Job, par exemple, Job prêche déjà, sans le savoir et sans le connaître, la résurrection des morts. On voit que David va annoncer déjà Jésus-Christ à travers, eh bien, tout ce qu'il a pu connaître lui-même. C'est de la typologie, on peut dire ça. Joseph, la même chose. Quand on voit également, eh bien, le prophète Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, va décrire dans les moindres détails, chapitre 53 de son livre, les souffrances de Christ pour chacun d'entre nous, et mourir pour les coupables. C'est ce qui s'est passé, et ils étaient inspirés par l'Esprit-Saint, finalement. De même que les hommes ont été des agents, on peut dire ça plutôt comme ça, par Dieu, pour la rédaction de la Bible, j'en parlais tout à l'heure. Quand on fait de la bibliologie, c'est-à-dire l'étude de la constitution des Écritures, Anciens et Nouveaux Testaments, on s'aperçoit que c'est une œuvre surnaturelle. Comment un livre, comment 66 livres, une bibliothèque, ont été conservés à travers des siècles alors qu'il y avait un monde d'opposition, un monde de sang et de feu qui ne voulait que détruire finalement ces textes sacrés pour que nous n'en bénéficions pas et anéantir le plan de Dieu. L'Écriture, c'est elle qui nous donne la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est important, et ça, c'est une inspiration. Et tous les hommes qui nous ont précédés, ont écrit, ils venaient de différentes catégories, ils venaient de différentes classes de la société, il y avait des savants, il y avait des gens du peuple, il y avait des pêcheurs, celui qui va au poisson là, et toutes sortes de gens de cette manière, mais Dieu s'est servi de tous ces hommes. Il s'est servi des hommes de la loi, il s'est servi des rois, il s'est servi de toutes sortes de gens. Et je peux dire que la rédaction de la Bible, c'est un miracle qui a traversé les siècles. L'inspiration des Écritures, la compréhension, les origines, la transmission des Écritures, c'est quelque chose d'extraordinaire. Intéressez-vous à l'histoire de la Bible. Vous verrez, parce que c'est bien de lire le texte, mais il y a eu toute une histoire, et une histoire qui était qui était ensanglantée. Et aussi aujourd'hui, nous sommes dans la liberté de pouvoir la lire. Vraiment, c'est d'une grâce de Dieu. On pourrait bénir le Seigneur tous les jours. Ça, c'est sûr. Toute écriture que nous avons est inspirée par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Tout ce que nous devons retenir, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. C'est les hommes qui créent des erreurs, qui cherchent des excuses ou des contradictions. Je l'ai dit tout à l'heure et je voudrais le redire, c'est que dans le cadre de l'apparition de Jésus sur cette terre en tant que sauveur, le Saint-Esprit a continué à œuvrer une fois que Jésus est mort et ressuscité et qu'il est monté au ciel. Nous trouvons des exemples, qui sont très très intéressants dans la manière dont les choses, ont été faites dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que le livre des Actes des Apôtres, on pourrait lui donner un autre titre, c'est le livre des actions après que Jésus soit monté au ciel, de ce que les hommes qui ont été avec Jésus ont vécu, ont expérimenté et ont écrit. Ce qui nous reste aujourd'hui, parce que c'est un livre d'histoire naturellement. Nous trouvons un exemple, par exemple, de la continuité de tout cela, lorsque il nous est parlé d'un homme, c'était avant la résurrection de Jésus, naturellement, mais qui nous laisse entrevoir finalement l'œuvre de l'Esprit, la lumière du Saint-Esprit. Il nous est parlé d'un homme qui s'appelle Siméon, et il nous est dit que l'Esprit Saint était sur lui. Et cet homme avait été averti par l'Esprit, tout simplement, qu'avant sa mort, il verrait le Messie, il le tiendrait dans ses bras. C'est dans l'évangile de Luc, vous pourrez le relire. C'était un homme qui portait déjà la pensée de l'Esprit. Et très souvent, dans le livre des Actes des Apôtres, le livre que nous avons ouvert il y a un instant, il nous est parlé de Barnabas, il nous est parlé d'Étienne, il nous est parlé de d'autres, comme étant remplis de foi et d'Esprit Saint. Je pense que l'Église dans laquelle nous sommes, nous devrions être tous des hommes remplis d'Esprit Saint et de foi. C'est un minimum, me semble-t-il. Et on pourrait certainement avancer encore. Que dire encore? Tout simplement, à travers cette plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, où nous pouvons nous-mêmes être revêtus de cet Esprit. La proposition nous est faite, l'invitation nous est faite. Vous savez que quand Jésus est revenu de ses 40 jours de tentation dans le désert, et parlons de la tentation, parlons de vos épreuves, parlons de vos doutes, parlons des moments difficiles que vous vivez. Quand Jésus a passé, d'abord il s'est fait baptiser. Ça, c'était l'obéissance à Dieu son Père. Mais quand il est revenu des 40 jours, passé à jeûner dans le désert, il nous est dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Après l'épreuve, il y a véritablement, à ce moment-là, quelque chose qui se passe. Mes frères et sœurs qui êtes bloqués sur un problème ou un autre, une douleur, une souffrance, incompréhension, désamour, à travers physique, morale, psychologique, incompréhension spirituelle, n'ayez pas peur, le Seigneur va vous aider à traverser cette épreuve, c'est un désert. Les Hébreux ont été 40 ans dans le désert. Jésus était 40 jours dans le désert. Et nous pouvons aussi passer 4 jours. Et encore, je réduis, hein. Ouais. Mais une chose qui est certaine, c'est que ne défaillez pas, ne baissez pas les bras, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir, après l'épreuve, un renouvellement dans le Saint-Esprit. Ou être baptisé du Saint-Esprit, pourquoi pas? Parce que vous savez, il y en a un qui vous sert de près, qui essaie de vous stranguler, là, pour essayer de vous neutraliser, de vous décourager, de vous faire baisser les bras. Mais non! C'est que derrière une épreuve, il y a une libération, il y a une délivrance. C'est le psaume 82 ou 86, enfin je suis pas un... mais il est dit ceci, tu nous as fait passer par l'eau et par le feu. Tu as fait monter des hommes sur notre terre, ça veut dire le piétinement. Hein. Tu as fait toutes sortes de choses, tu les as permis, mais tu nous en as délivrés pour nous donner l'abondance. Mes frères et sœurs qui passaient par une épreuve, le Seigneur va vous délivrer pour vous donner l'abondance. Et je dirais même l'abondance, la plénitude du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas baptisé d'esprit, ou si vous l'êtes, il va vous redonner un renouvellement. Ranime en toi le don que Dieu t'a donné. C'est ce que Paul disait à Timothée. Ranime en toi le souffle. Si vous le voulez, vous allez l'avoir. Mais ne perdez pas de vue que c'est le Seigneur qui va le faire. Le ministère du Saint-Esprit, je reviens aussi sur cela, c'est de poursuivre l'œuvre de Jésus à travers la mission que nous avons aujourd'hui en tant que témoins de Jésus. Oui. Et les uns et les autres, il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que les frères anciens, il n'y a pas que certaines personnes bon, qui ont quelques responsabilités, et tout le monde en a un petit peu dans l'Église, hein, d'une façon vue ou pas vue. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons être des hommes qui soyons capables de transmettre à l'extérieur, à nos familles, ce qui n'est pas gagné d'avance, hein, mais véritablement que nous ne sommes pas des mystiques, que nous ne sommes pas ascètes ou tout ce que vous voudrez, mais que nous sommes des gens équilibrés, mais remplis de quelque chose qu'ils n'ont pas. Et de leur donner faim et soif. Eh oui. On l'entend quelquefois, hein, en disant, ben c'est vrai que on est regardé, quelquefois les gens nous voient en disant, mais ils sont plus pareils, etc., etc. Mais si c'est un témoignage positif, et vous allez donner faim et soif, nous voudrions être comme ces hommes et ces femmes. Et ça, c'est un témoignage, naturellement. Puis je termine. Je termine parce que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en grec, ça veut dire dynamis, en grec, c'est dynamis. Et vous savez ce que ça donnait comme nom chez nous? Dynamique, dynamite, pardon. Vous avez de la dynamite, du TNT dans vos poches, là. Alors surtout, hein, ne fumez pas, parce que ça peut s'enflammer. Mais toujours est-il, excusez-moi, je divague. Mais une chose qui est certaine, c'est que le Saint-Esprit sur un homme ou une femme, c'est dynamis. C'est de la puissance de la personne du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est important. Et puis enfin, je voudrais terminer parce que vous le savez, mais ce sera la conclusion de notre message ce matin. Je voudrais simplement vous dire que les actions du Saint-Esprit ont été symbolisées à travers des choses qui sont dans la Bible, sous différents thèmes ou différentes images. La Bible nous parle du vent pour illustrer l'activité inattendue et indépendante, finalement, de l'Esprit qui fait naître de nouveau le vent. Il est comme le vent, dira Jésus à Nicodème. Tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Mais c'est la vie de l'Esprit, la nouvelle naissance. Et puis, le Saint-Esprit communique la vie. Quand on lit le texte d'Ézéchiel, par exemple dans 37, tout ce qui est mort, les eaux desséchées, vous connaissez dans la vallée des eaux desséchées, hein. Là, on n'est pas dans un cimetière, on est dans un ossuaire. Et à un moment donné, il nous est dit, l'Esprit de Dieu est venu, il a rendu la vie à tous ces ossements qui étaient desséchés. Et ça, c'était l'image du peuple d'Israël qui était mort spirituellement et qui allait revenir à la vie pour tous ceux qui accueilleraient Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous prions pour la renaissance d'Israël complète et totale en ce moment. Hein. On ne l'oublie pas, hein. C'est l'Esprit qui fait vivre. Il est symbolisé aussi par l'eau qui désaltère tous ceux qui ont la soif spirituelle. Jésus le dira dans Jean chapitre 7, « Venez à moi, vous tous qui avez faim, qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau vive. » Idem pour la Samaritaine, donc c'est l'eau. Le Saint-Esprit est comparé au vin qui communique la joie, dans Éphésiens par exemple, ou dans le psaume. Oui, la joie, tout simplement. Il est aussi comparé à de l'huile que l'on verse, oindre d'huile et oindre de l'esprit. Ça, c'est quelque chose aussi, une vérité. Il est aussi comparé à la colombe, qui est l'image, l'emblème, tout simplement, eh bien là, de la paix, qui marque la pureté et la délicatesse, la colombe, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comparable à un feu dans son action purificative, non pas destructrice, mais purificatrice de nos vies. Il est aussi attaché à l'image d'un sceau ou d'un cachet. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est ça, hein? C'est-à-dire quelque chose qui est scellé. Nous sommes scellés par la rédemption de l'expiation de Jésus-Christ dans la rédemption. Nous sommes scellés. Vous savez ce que c'est qu'un scellé? On ne touche pas. Nous sommes à lui et lui est à nous. C'est l'image du Saint-Esprit. Et puis il est aussi les arts de l'esprit. Je terminerai sur cela. Les arts de l'esprit. Quand vous achetez quelque chose et que la somme est assez conséquente, vous versez des arts pour retenir, pour être assuré que vous allez avoir ce que vous avez choisi et acheté. Eh bien, nous, notre vie de chrétien, à travers le baptême, à travers nos engagements, à travers notre vie, à travers notre vie de l'esprit, ce sont les arts de l'esprit, parce que nous ne sommes pas comme les Juifs qui attendaient le pays de Canaan où coule le lait et le miel, donc une attente terrestre, mais nous, nous attendons quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus beau, quelque chose d'éternel, où nous serons eh bien, des créatures immortelles, les arts de l'esprit. C'est pour ça que notre espérance, eh bien, elle n'est pas vaine. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous pouvons dire par l'Esprit, « Abba, Père, je suis à toi, tu es à moi, je suis ton enfant, je fais partie de ta famille, tu m'as adopté par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes dans l'attente du plus beau de tous les miracles de Dieu, c'est-à-dire de vivre pour, dans la gloire, pas pour la gloire de Dieu, mais dans la gloire de Dieu, pour l'éternité dans son ciel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce matin. C'était les œuvres admirables du Saint-Esprit au milieu de son peuple. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est claire. Et si elle est claire, c'est que non seulement, Seigneur, eh bien, elle est la vérité, éclairé par ton esprit, mais c'est parce que toi, tu nous as éclairés. Tu nous as donné ta lumière. Cette lumière, Seigneur, c'est pas cette lumière matérielle, cette lumière artificielle des hommes, mais c'est une lumière qui est celle, eh bien, de la dimension spirituelle des choses. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour t'être révélé. Puisque, Seigneur, ceux qui veulent connaître Dieu peuvent le connaître à travers sa parole. Ceux qui découvrent Jésus peuvent le découvrir à travers le Nouveau Testament, l'Évangile. Et puis ceux qui sont en recherche, à la fois de connaître mieux le Père, mieux le Fils, eh bien, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre ami. C'est mon compagnon. C'est celui qui est là à présider à tous les événements de ma vie, de mes expériences, heureuses, voire même malheureuse. Oui, Seigneur, merci de nous avoir donné l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de la vie. Seigneur, je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, de les encourager, Seigneur, véritablement aller plus loin, et ainsi, Seigneur, eh bien, d'approfondir ou de se laisser enseigner de s'éloindre par le Saint-Esprit, parce que c'est à cela que nous avons été destinés. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles, vous recevrez le don de Dieu pour tous ceux qui sont auprès, pour vos enfants, vos fils, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alors, à ce moment-là, comme tu nous le dis sous le prophète Joël, eh bien, vos fils et vos filles auront des songes, des visions. Que vos vieillards, Seigneur, vivront ces expériences aussi. Et qu'à travers, Père éternel, le ciel et la terre, tu te manifestes pour montrer que Dieu est Dieu, que Jésus est Sauveur et Seigneur, et que le Saint-Esprit, c'est celui qui réalise tout cela, c'est celui qui est l'exécuteur du plan de salut. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Je te demande pour ceux qui ne sont pas baptisés, alors que nous sommes en prière simplement, et qui te prie, qui te dit, Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Remplis-moi de la plénitude de ton Saint-Esprit. Donne-moi d'avoir le signe évident, le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Eh bien, maintenant, tu passes dans les rangs, tu te révèles et tu te manifestes, et tu remplis du Saint-Esprit, tu baptises du Saint-Esprit, afin que l'Église, tous les uns et les autres, eh bien, nous puissions connaître une nouvelle Pentecôte. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.